Salut Marc et Smart et bienvenue dans Catch Up Raw, votre émission hebdomadaire d'analyse du catch à Monday Night Raw avec l'équipe du Cash Up. Et cette semaine, changement de roster total puisque vous retrouvez la vieille équipe, les vieux rabougris, c'est-à-dire moi, Hank, et notre cher Ringside. Salut Ringside.
Salut.
Et cette semaine, Monday Night Raw est, je ne vais pas dire historique, mais lourd de conséquences, je pense, sur la suite du futur de la WWE. Bref, bon, je vais arrêter de faire de la poésie. Ce soir, on aura un rematch de donc Sasha Banks contre Alexa Bliss pour la ceinture féminine. On aura une signature de contrat Roman Reigns contre John Cena. Et une allocution de la bête, Brock Lesnar.
La bête.
La bête. Et on a commencé cette soirée avec le Miz. Alors, du coup, c'était à Memphis, hein, voilà, pour les gens qui veulent à chaque fois savoir où c'était. C'était à Memphis. Ringside, as-tu une anecdote sur Memphis?
Non.
Voilà, merci. Désolé. Non, Ringside, si vous connaissez bien Ketchup, Ringside est spécialiste pour avoir des anecdotes sur les villes. Donc, ça commence avec le Miz. Qui est au milieu du ring avec le mistourage et il commence, il veut essayer de parler de respect et il se fait couper dès qu'il dit le mot respect et là Kurt Angle arrive sous les habituels you suck. Hein. Il est venu dire que le Miz n'avait peut-être pas d'adversaire pour WrestleMania mais il en aura un à No Mercy. Et là, le Miz reprend la parole et explique de façon très justifiée que Kurt Angle ne connaît pas le respect. Il lui sort la définition du dictionnaire, hein, je sais plus ce que c'est le dictionnaire américain, mais bref. Angle lui annonce carrément que le Miz aura un championship match la semaine prochaine, même avant No Mercy, contre le gagnant du prochain match. Et le prochain match, qu'est-ce que c'est ? C'est un Battle Royale. Et oui, on n'a plus d'idée. Battle Royale. C'est un peu
à sec.
Bon, voilà, c'est un peu le signe qu'ils ont plus d'idée quand ils font des Battle Royale dans les weekly. Donc, cette Battle Royale est réunie qui je n'oublie personne, on a le Big Show qui s'est rasé. Jeff Hardy, Matt Hardy, Finn Balor, le Mistourage, Kalisto, le Drifter, Jason Jordan, Apollo Crews et le Club. Voilà.
Du beau monde.
Donc voilà, il y a ce qu'il faut, du beau et du mauvais, du beau et du laid monde. Mais voilà. Alors, ce match, il commence par Big Show qui massacre tout le monde. Hein. Jusqu'à ce que le club et Balor réussissent à le jarter hein, ensemble dans un petit moment tout sweet, comme disent les fans. Et donc le Mistourage est tout fier d'éliminer ensuite Hartruf. Ça, c'était très drôle. Ils ont éliminé Hartruf et juste après, ils ont fait « Wow !» Trop bien. Le Drifter a éliminé... Drifter a éliminé Apollo Crews, hein, aussi avec un magnifique coup de poing dans les genoux. C'était un spot assez étrange. On a eu aussi un sympathique duel entre Matt Hardy et Anderson sur le bord du ring qui s'est fini avec Anderson qui se prend le poteau et donc qui tombe, mais Gallows pas content hein, Gallows il était éliminé, il était à terre il était au sol. Et à ce moment-là il tire Matt du ring pour le faire tomber. Donc il reste plus que Jeff dans le ring des frères Hardy. Le Miz est aussi là aux alentours du ring un peu pour intervenir et sauver le Mistourage hein, à droite à gauche. Après un gros festival de Finn Balor hein, qui fait ses fameux front dropkick, son sling blade et compagnie. C'est l'heure du duel Balor contre Jeff Hardy. Et Jeff balance un double dropkick sur lui, puis il tente le Twist of Fate, mais Balor le piège dans un Sling Blade, hein, puis l'enterre avec un front dropkick. Vous avez compris, Balor, c'est front dropkick, Slinkbait affronte Dabnik. Mais comme les choses commencent à être meilleures hein, dans le match, hein, il y a de plus en plus de bons catcheurs, eh bien, il y a quelqu'un qui adore gâcher les bons moments. Eh bien, c'est Bray Wyatt. Bray Wyatt qui arrive de nulle part. Hein, on éteint la lumière, Bray Wyatt, il est là. Et il balance Balor dehors. Voilà, donc Bray Wyatt, Finn Balor, c'est toujours là. C'est dommage. Donc... On passe à Jason Jordan qui fout des souplexes de partout hein, et il élimine le Mistourage. Puis Ilya Samson, donc il élimine le Mistourage, puis Ilya Samson. Mais Jeff Hardy est derrière en roublard et il finit le travail en poussant Jason par-dessus la troisième corne.
Par-dessus.
Merde, j'aurais dû prendre mon temps pour qu'on la fasse ensemble. Ce sera Jeff Hardy contre le Miz la semaine prochaine pour le titre intercontinental. Finalement, une bonne nouvelle. Qu'est-ce que t'en penses, Ring?
Ouais, on s'interrogeait la semaine dernière ou il y a deux semaines sur l'avenir de Jeff Hardy en solo. Ben voilà, on va tester, on va voir ce que ça donne. Face au Miz en plus, donc un adversaire de choix pour le titre intercontinental. Donc c'est plutôt du tout bon pour Jeff Hardy. Puis on est content de voir un peu le truc se renouveler, là, de partir sur un truc qu'on n'attendait pas vraiment. Et puis c'était une belle petite Battle Royale. Moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien booké avec Kurt Hawkins qui se fait virer dès le début. Les Gallows et Anderson qui travaillent ensemble pendant tout le match, la petite réunion là, le petit tease de réunion avec le Baylor Club, c'est pas mal. Jason Jordan qui élimine le Mistourage, Jeff Hardy en roublard, Apollo Crews qui se fait éliminer pendant la pub, tout ça c'était c'était intelligent, c'était cohérent. Moins le bordel que d'habitude, alors quelques spots qui n'étaient pas terribles, hein, comme tu l'as dit, là, l'élimination d'Artrouf, mais sinon c'était bien troussé, et puis le résultat est surprenant, donc un début de show pardon, qui commence sur des chapeaux de roue, j'ai envie de dire.
Ok, tandis que j'étais en train de vérifier mon micro, mais tout va bien.
J'ajouterais juste une chose, si tu me le permets.
Je te le permets.
Bray Wyatt, putain, qu'est-ce qu'il vient faire là? C'est fini sa rivalité avec Finn Bálor. C'est pas possible.
C'est la triste. C'est la seule mauvaise nouvelle de ce match. Hein.
C'est le point noir.
C'est le point noir. Le pauvre Finn. Parce que finalement, Bray Wyatt, maintenant, moi, je commence à me dire bon, c'est peu importe Bray Wyatt, mais pauvre Finn Bálor. Qui pourrait quand même avoir un programme un peu plus intéressant, au moins contre quelqu'un. Finn Balor, il est tout frais de l'arrivée dans le main roster. On pourrait le mettre avec quelqu'un d'autre quand même. Donc voilà, on a la séquence Amore avec Enzo qui est venu au micro. Alors bon, si vous le savez pas, la semaine dernière, il a annoncé son arrivée à 205 Live. Et puis, je crois que dans une séquence où il y avait Neville, donc carrément, hein, il arrive et puis il veut le titre. Mais donc, il vient au micro et puis il vient dire qu'il a prouvé qu'il pouvait battre les géants donc 7 foot hein, comme Big Cass. Hein, et puis que de toute façon, quiconque tente de l'embrouiller, il finit toujours mal. Parce que voilà, il est trop badass tout ça. Et puis bon, il parle pas du tout du fait que c'est Big Show qui a fait tout le travail. Et puis ensuite il dit ouais, en plus moi je sais tout faire, je sais danser, je sais je sais plus quoi, chanter ou un truc comme ça. Et quand je parie sur Mayweather contre McGregor, alors je sais plus, il a dit un truc des gens. Ouais, c'était un truc que je pense qui était en relation donc du coup avec Mayweather McGregor où il disait que voilà, il avait quand il venait à un match et il savait qui allait gagner et tout ça.
Il jouait ce garçon.
Ouais, voilà. Et puis c'était un petit peu aussi pour alors ça c'est vraiment les gens, les nerds comme nous, qui regardent un peu les Twitter des catcheurs. Donc, du coup, c'était un peu pour répondre à Samoa Joe la semaine dernière, qui s'est foutu de sa gueule parce que Enzo Amore avait dépensé je sais pas combien de milliers de dollars pour aller à ce match. Tandis que Samoa Joe avait acheté un poulet. Donc, il avait dit meilleur deal. Donc, Noam Dar, contre Enzo Amore. C'est le match de ce soir. Donc, je vais pas vous le raconter. Hein, c'est Enzo Amore qui a gagné avec un finish très étrange. Hein, je sais plus comment ça s'appelle. Un truc genre le truc désespéré ou je sais pas quoi. Enfin, en clair, il est par terre et puis il fout un kick sur le visage du mec. Mais en fait, c'est très très bizarre. En fait, il se tient avec un bras de son adversaire et il lui fait un coup de pied dans le visage.
Ouais, enfin, c'est surtout qu'il a botché la prise. Hein. C'est normalement ouais, que c'est écrase-mâchoire. C'est la prise de c'est la prise de finition de Gail Kim pour ceux qui qui suivent un peu les knockouts de la TNA. Voilà, mais il a très mal fait. Hein. Passer le pied passé largement à côté du visage.
Ouais, mais j'ai du mal à comprendre que c'était un finish pour le coup. Donc voilà, rien à dire. Est-ce que, enfin, j'allais dire, à part que Noam Dar mérite pas ça. Bon, Noam Dar mérite pas non plus des. Mais là, tu te dis quand même, c'était un sale match quoi. Même les matchs de Noam Dar contre Rich Swann ou autre qui passe à Raw, tu vois, même ça c'est moins pire que ça. Moi j'ai trouvé ça vraiment mauvais.
Alors, bah, je me disais qu'au début ils allaient peut-être profiter du truc pour permettre aux cruisers de dérouler, tu vois, c'est utiliser Enzo comme un punching ball. Ouais. Mais c'était les trois premières minutes du match et puis après il y avait plus rien du tout. Voilà.
On a eu une interview de Neville voilà. juste après pour suggérer donc du coup que carrément Enzo il va à la conquête du titre et c'était à peu près le seul moment marrant de ce passage parce que Neville il disait si maintenant ma plus haute compétition c'est Enzo Amore je serai champion pour toujours et après je suis plus il a fait à jamais
forever and never.
Bref. On va passer donc à la Beast Brock Lesnar qui arrive dans l'arène. Heyman, bien entendu, prend le micro et puis il explique que Braun Strowman est le seul qui mérite d'affronter Brock Lesnar. Il rappelle que Strowman à SummerSlam, il a power slamé Brock Lesnar à travers une table deux fois. De suite, et en clair, il dit qu'il a carrément martyrisé Lesnar, et puis ensuite, il dit, j'ai une preuve vidéo, donc, j'ai trouvé la séquence assez étrange, parce que t'as Lesnar qui est juste à côté, il est en train de vaguement démonter, finalement, la puissance de Lesnar. Mais, donc, il nous dit, j'ai des preuves vidéo, et tout ça, et puis donc, on nous montre un playback habituel de la semaine dernière. Ou Braun Strowman, donc du coup, est arrivé vers la fin du show et puis a vraiment démonté Brock en morceaux. À la fin, il a pris la ceinture pour fanfaronner. Donc, Heyman est interrompu à la fin de son speech par Lesnar, qui prend le micro pour dire ce sera Suplex City Beach à nos merci. Donc voilà, séquence. Sympathique.
Standard. Assez exceptionnel que Brock Lesnar parle, mais il n'a pas dit grand chose de suffisamment intéressant.
Ce que j'ai trouvé exceptionnel, par contre, désolé de te couper, mais ce que j'ai trouvé exceptionnel, c'est à quel point Heyman a. Il était vraiment là. Il a presque trop vendu, je trouve, Strowman, dans le sens où. À côté, en fait, tout ce qu'il était en train de raconter, il n'y a pas un seul moment où il a dit « mais Brock Lesnar » ou « mais attention, mais truc ». Il a juste dit « non, Strowman, il est inarrêtable, il a ridiculisé mon client et tout ». Alors pourquoi tu es son avocat il faut...
Il n'était pas très inspiré, man, cette
semaine. C'est un peu trop justement penché vers Strowman. Mais une séquence plutôt cool.
Efficace
et pas cher. C'est Man que je préfère. On passe à Seth Rollins contre Cesaro. Seth Rollins contre Cesaro. Bon, il y a une feute depuis que donc Rollins et Ambrose ont gagné les ceintures tag team à SummerSlam. Bon, on continue sur la feute de Cesaro Sheamus, Rollins Ambrose. Et donc Rollins il arrive et puis il est accompagné d'Ambrose, ils montent bien leur ceinture tout ça, Sheamus et Cesaro aussi, donc tout le monde est là pendant le match, et donc ce match il commence par que je me souvienne Cesaro, il commence par une super musique ce match. Non, oui, donc du coup, j'avais noté que ouais, Cesaro, en fait, j'ai noté que des spots en fait. Il fait un moment deux souplesses de suite en restant au sol juste après la première souplesse. Enfin, il fait son magnifique backbreaker. À un moment, il aligne trois clotheslines sur Rollins sans bouger, hein, sans élan. Juste, il relève Rollins, il refout une clothesline.
Rainmaker,
Donc
carrément.
Rollins s'en prend quand même plein la gueule pendant la première partie du match. Hein. Et il arrive à revenir avec un Enziguri, un Sling Blade, parce que finalement c'est pas la propriété de Balor. Et il enchaîne avec un Blockbuster. Et ensuite il powerbombe Cesaro sur le poteau. Mais se fait distraire juste après par Sheamus. Et malgré l'intervention d'Ambrose, hein, qui est venu un peu pour. Enfin, Sheamus qui arrivait vers le ring, Ambrose qui arrive pour plaquer Sheamus contre la barrière, ça ne suffit pas et Rollins se fait distraire. Il se prend un uppercut, victoire de Cesaro donc. Et après le match, eh ben, il y a Sheamus qui dit: Oh bah dis donc, moi ce qui me dirait bien c'est de me taper Ambrose puisque Cesaro s'est tapé Rollins. Donc on part sur Ambrose contre Sheamus. Donc
Sheamus veut se
Sheamus,
taper Ambrose alors.
voilà, Sheamus veut se taper Ambrose. Non
Je vois.
mais vous m'avez compris. Donc Sheamus réduit Ambrose en bouillie à coups de prise de soumission, aussi du backbreaker. Et lorsqu'il tente le broke kick, Ambrose contre en Dirty Deeds, mais ça ne marche pas. Ambrose ensuite réussit à caser donc du coup une clothesline et juste après Rollins tente d'empêcher Cesaro d'intervenir et il part à ce moment-là à travers le ring hein. Passe dans la diagonale devant le poteau Cesaro donc tente de le suivre mais il se fait arrêter par l'arbitre donc l'arbitre n'a pas vu Rollins mais a vu Cesaro hein, dans cette séquence assez débile. Sheamus est à deux doigts de sortir un nouveau backbreaker hein, pour finir Ambrose, mais Rollins, donc du coup qui a réussi à passer derrière, lui fait son coup de genou là, son espèce de finisher. Il a même pas de nom ce finisher, je crois. Donc Ambrose case justement juste après son Dirty Deeds, victoire des Babyface. Voilà,
Un
donc
partout.
un partout, la balle au centre.
C'est ça. C'était plutôt sympa, tout ça.
Ouais,
Pas
c'était.
transcendant, pas très novateur, hein, face à
Non.
face, un contre un, chacun de son côté, mais on a eu du beau catch. Bon, en même temps, c'est normal avec les gaillards qu'il y avait dans le ring. C'est la même génération, un peu tout ça, hein, Rollins, Ambrose et le père Cesaro. Sheamus, il est un peu plus vieux, mais il a une nouvelle jeunesse.
Au commentaire, on nous a rappelé que Rollins et Cesaro à NXT, c'est la même promotion. Hein. Enfin, Cesaro, je crois, est monté plus tard. Attends. Si, ouais, il est monté plus tard, il me semble, Cesaro.
Non, peut-être pas. Peut-être même
Je
avant.
sais pas.
Enfin, c'est à peu près
Avant?
pareil. En
Mais
tout cas,
ouais,
il a pas
alors.
fait. Il est revenu à NXT après Cesaro.
Ouais.
C'est un
Ah,
peu
c'est pour ça, ouais.
bizarre.
Mais
Mais ils ont, ouais, à la FCW ou
ils se connaissent bien,
l'OVW.
quoi.
Ils étaient là avant que NXT devienne NXT, en fait. Hein.
Ouais.
C'était quand c'était encore le centre de formation. Ils ont déjà beaucoup catché ensemble dans cette fédération-là où on entraîne les gens à devenir des stars. Hein, les centres de formation de l'époque, ils avaient déjà raconté qu'à l'époque, ils trouvaient qu'ils avaient bien tous du talent et que ben, normalement, quand ils seraient dans le main event, hein, ça ferait des étincelles. Ben voilà, ils y sont. Et puis effectivement, le show est là, le spectacle est là. Ce qui est marrant, c'est qu'ils avaient raconté justement dans un Table for Free que justement, à l'époque, ils étaient frustrés, hein, de ne pas pouvoir être plus en vue parce que c'était pas la FCW ou la OVW, c'était pas très visible hein, à part quelques vidéos sur
Je crois
Internet.
qu'ils avaient un deal avec une chaîne locale,
Voilà.
mais le public était ridicule justement au niveau même s'ils avaient En fait, je l'ai lu dans le bouquin justement NXT, dont je vous promets la review depuis 60 ans, ça va arriver un jour. Mais
mmh. Donc, jamais. Hein.
Donc du coup, ils disent dans le bouquin qu'ils attiraient genre 50 personnes, pas, mmh. plus, pas plus d'une centaine de personnes à leur show. Quand on pense que là-bas, même si c'est pas la grande époque, enfin c'est pas l'époque de la NXT qu'on connaît aujourd'hui, quand même là-bas, il y a eu beaucoup de mecs, il y a eu Bray Wyatt, il y a eu mmh. Il y a eu beaucoup de stars qui ont commencé là-bas. Enfin, Bray Wyatt, c'était Husky Harris, quoi. Mais bon, mmh. c'est pas aussi glorieux. Mais oui, donc clairement, ça se voit. Après, tout le monde est censé avoir une bonne alchimie. Mais, mmh. Mais clairement, ils font des beaux matchs. Et si seulement ils donnaient autant d'importance. Bon, après. C'est maintenant il est en tag team, ça marche. Mais si seulement ils avaient donné une carrière solo à Cesaro, une feu de Cesaro Rollins, ça aurait sûrement donné des matchs incroyables. Je crois que ça arrivera jamais, mais bon, parce que ils reconnaîtront jamais, enfin ils laisseront jamais sa chance, je pense, à Cesaro, quoi, de
Il a sa chance maintenant. Après, on verra bien, mais c'est sûr de le lancer en solo. Ouais, c'est sûr qu'il a pas. Ça sent quand même qu'il c'est pas dans leur projet. Ouais, donc mon anecdote hein, que je n'ai pas terminée du coup.
D'accord.
Et elle va avoir moins d'impact maintenant. Alors, je sais pas si je vais la terminer. C'est simplement qu'à l'époque, il rageait parce qu'il y avait des affiches de je sais plus quel pay-per-view où l'affiche c'était la tête de Sheamus en gros.
Ah,
et ils avaient la haine contre Sheamus, et bien aujourd'hui ils catchent, et Sheamus est dans le lot, et il fait partie de leur storyline vraiment bien imbriqué, comme quoi les choses changent. Et ouais, bah, Cesaro, non, bah, pour l'instant de toute façon ils sont là, même Rollins et Ambrose, finalement c'est des gens qui devraient être plus haut dans la carte. Là maintenant ils ont leur place autour de la ceinture tag team, et il faut reconnaître que ça fonctionne bien, donc autant qu'ils restent là un moment, ça donne de la valeur à la ceinture. Au niveau du main event, c'est un peu bouché à moins qu'ils aillent à SmackDown, mais je sais pas s'il y a grand monde qui veut aller à SmackDown.
Moi je pense pas que, enfin bon, après je vais peut-être être un peu méchant, je pense pas qu'Ambrose mériterait d'être plus haut dans la carte. Enfin,
Ambrose, il a vendu. Hein. Après, là, moi, j'aime bien comme il est là en ce moment. Hein. La manière dont il a catché cette semaine, c'était bien cool. J'aime bien Ambrose quand il est dans des moments comme ça. Il est capable de sortir des sacrés promos, mais ils l'utilisent pas correctement, Ambrose. C'est,
ouais, mais on l'aime. Je pense qu'on l'aime beaucoup plus en tag team, justement, parce que Ambrose, enfin, le style Ambrose est bien meilleur quand on lui donne 2 minutes, enfin, des bouts de 2 minutes dans un match où il va à 100 à l'heure. Plutôt que essayer de lui faire un match de 15 minutes dans un pay-per-view qui du coup à chaque fois, enfin quasiment à chaque fois ces 2 dernières années, à chaque fois qu'on lui a donné un gros match en pay-per-view, c'était quand même un peu pénible, parce que il a pas je pense pas qu'il a un registre assez grand pour s'adapter à du solo contre des mecs qui
Après, aller à SmackDown, c'est une punition quand même. Hein. Je pense qu'il a dû aussi. Enfin, c'est vécu comme une punition par les catcheurs. Hein. Je pense qu'il a dû être démotivé aussi pendant un moment de finir en kick-off dans certains shows. Je crois qu'à WrestleMania, il était en kick-off en mode. Ouais. Voilà, il n'a pas eu non plus un traitement qui était super motivant pour lui. Hein. Donc, quelque part, c'est aussi normal qu'il ait comme ça ses baisses de régime. Mais là, je trouve que pour Seth Rollins, lui, ça fonctionne bien. Seth Rollins aussi, je trouve qu'il était très mal utilisé aussi sur la dernière année. Mais voilà, là, ils ont les ceintures tag team, ils ont un spot qui est important. Ça fait le spectacle. Là, pour moi, c'est ce qu'il faut à la place où il faut. Et j'espère qu'ils vont rester sur cette rivalité-là pendant un petit moment, parce qu'il y a moyen quand même de faire un paquet de matchs et un paquet de trucs spectaculaires. C'est quand même les meilleurs du roster, un petit peu tout cela.
Et j'ai bien aimé le fait que malgré... en fait, on nous aurait mis ces 2 matchs annoncés dès le début et séparés de, je sais pas, 2 autres matchs, etc. Ça aurait sonné très classique. Mais j'ai bien aimé la façon dont ils ont construit le truc, où ils n'ont pas annoncé le 2e match, où à la fin du premier, c'était genre, hop, il y en a un autre. Et du coup, on se disait, bah, on va avoir l'autre. Enfin, le fan de catch de base sait que bah, l'autre rencontre, on va l'avoir la semaine prochaine, ou un
Ouais,
truc comme
voilà.
ça. Donc là, ils ont fait les, voilà, ils ont fait les deux, c'était plutôt bien construit. Bon, allez, on va passer un moment un peu pénible. C'est Emma qui est en coulisses et qui fait genre ouais mais hashtag machin ils traînent de trop la semaine dernière j'étais encore trending topic sur Twitter et donc elle dit ça en fait à Mickey James hein, qui est juste à côté et Mickey elle lui dit eh ben écoute enfin, et puis en, ah oui non et Emma lui dit en plus, les gens, ils reconnaissent toujours pas que j'ai démarré la Women's Revolution et tout ça. Et donc, Mickie James lui dit, bon, écoute, on a un match ce soir. Si je gagne, tu me promets de ne plus jamais dire que tu as commencé la Women's Revolution. Et si je perds, eh ben, j'utiliserai le hashtag que tu veux hein, sur mon Twitter. Je posterai tout ce que tu veux. Donc voilà, hein, des comment un suspense haletant. Et donc Emma contre Mickey. Au début déjà, on apprend que Emma a une nouvelle musique qui est toute pourrie.
Toute pourrie.
Et Mickey James est toujours une quarantenaire qui s'habille chez Jennifer. Donc après un match franchement un peu pourrave, hein, plein de semi-botch en seulement 3 minutes, Emma gagne sur un roll-up. Un roll-up, j'ai noté ridicule, où Mickey doit relever les jambes hein, pour que l'Australienne fasse le tomber, mais largement hein, relever les jambes. Et on remarque à la fin, pour couronner le tout, qu'elle a amoché Mickey, hein, Mickey qui a la lèvre qui saigne. Donc,
voilà. Bon boulot.
J'ai noté à la fin, Emma, je crois qu'il va falloir que tu partes de la WWE là. Il va falloir que tu t'en ailles parce que. À moins d'être fan d'être de cette place de souffre-douleur qu'ils lui ont mis, parce que finalement, c'est un peu une sorte de mode, hein, la WWE, j'ai l'impression ces derniers temps, c'est des moments, ils gardent quelqu'un, ou alors quelqu'un qui est un peu écarté, qui fait quelque chose de mal, ou alors qui froisse quelqu'un en coulisses, ils font revenir, mais pour vraiment le ridiculiser, quoi. Donc, Emma, elle est partie sur cette voie, c'est. Moi, je trouve que c'est la catastrophe. Enfin, moi, j'ai juste pas envie de voir ça. J'ai pas
En personne a envie de voir ça, je crois. Parce que ça, c'est un push, hein. Hein, quand tu donnes du temps d'antenne à quelqu'un, c'est un push. Donc là, je sais pas.
Ouais.
C'est un push qui sert à rien, à part enterrer Emma. À moins qu'on enchaîne peut-être sur une rivalité, mais je pense pas qu'elle va aller s'incruster dans la rivalité sur la ceinture, parce que c'est visiblement, c'est. Ça se passe entre certaines personnes qui sont déjà dedans depuis un moment, donc c'est vraiment, on est dans l'inefficacité totale, c'est même plutôt désagréable à regarder, et puis ça tend à détruire une potentielle superstar, donc c'est un peu zéro pointé sur toute la ligne hein, quand même.
Voilà, ça enterre Emma, ça enterre encore plus Mickie James, qui
Oui.
franchement, je veux bien que, bon, on n'imagine pas Mickie James repartir vers la ceinture, mais donner-lui de temps en temps une victoire, quoi. Mickie James, elle se fait massacrer en permanence, quoi. C'est au bout d'un moment. Donc, on va passer là à un sujet sérieux. Un sujet très très
Passons aux
sérieux.
choses sérieuses.
Le segment qui va faire de ce Raw un Raw très important, je pense. Reigns.
The bar.
The bar. Reigns contre Cena. La signature de contrat. Donc Kurt Angle est au milieu du ring et Cena arrive. Au passage, j'ai fait un bon check à Jerry Lawler. Ah oui, je vous ai pas dit, c'est Jerry Lawler qui remplace ce soir Booker T qui est à Houston, qui est en train de s'occuper de sa famille, puisque en ce moment, est-ce qu'il est fini? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un ouragan qui est passé au Texas par Houston et qui a fait d'énormes dégâts. Donc voilà. Et donc, Michael Cole rappelle que Reigns contre Cena, ça mérite WrestleMania, même si en fait, c'est à ce sous-pay-per-view qu'on appelle No Mercy. Cena nous explique en arrivant qu'il est revenu pour ce genre de match. Pour calmer le Big Dog, hein, il ajoute quand même que Reigns a été protégé tout au long de son chemin de victoire. Et il dit que Reigns ne veut pas se battre contre John Cena, enfin contre Super Cena, hein, parce que voilà, ça pourrait ternir sa réputation de homme imbattable, tout ça. Donc le Big Dog, Roman Reigns, il arrive et il dit que Cena, il se croit bien trop important et en fait il l'est pas vraiment. Et puis il dit désolé, mais au moins il y a quelque chose que moi j'ai fait et que t'as jamais pu faire. J'ai envoyé à la retraite l'Undertaker à WrestleMania. Et Cena, à ce moment-là, il part en vrille. Il y a un plomb qui pète. Et il commence... il commence en disant... Tu entends ce public ? Peut-être qu'il me boue, etc. Il y en a même qui veulent que mon personnage change. Mon personnage. Ils veulent que je... tourne il et d'ailleurs rajoute, il voit clairement, donc du coup en parlant de Roman Reigns, ce public, il voit clairement que tu n'es qu'un produit de l'entreprise WWE, tu es un cheap John Cena bootleg et je ne suis pas un vieux retraité avec une hanche blessée entre parenthèses comme l'Undertaker. Je suis au top de ma forme, le plus rapide et le plus fort que j'ai jamais été, et si tu m'affrontes, ton empire va s'effondrer. C'est au moment de la défense de parler. Roman tente la répartie. Il ne te boue pas pour que t'aies un heel turn, mais parce que tu suck.
Tu suces,
voilà. Des bips en enfer.
Oui,
et,
voilà.
et à ce moment-là, en fait, Roman, il n'a pas fini sa phrase, mais en fait, il a un blanc. Il fait « Mais aussi... plus que j'allais dire. » Et là, Cena, il l'enterre. Mais alors là, j'aime pas l'expression généralement enterré, mais là, on peut pas dire autre chose. Il l'enterre littéralement sur place. Alors que Roman Reigns, donc, est en plein blanc. Il dit: continue, j'ai tout mon temps. Ça s'appelle une promo, gamin. Si tu veux réussir, faut que tu la réussisses. Alors vas-y. Du coup, Reigns réussit à finir finalement en disant: t'es juste un yes man qui apprend à devenir et à faire n'importe quoi pour la compagnie. T'es juste une fake ass bitch. Reigns continue en le traitant de part-timing fake ass bitch. Enfin bref, on sent le mec qui a plus d'inspiration quoi. Donc voilà, il dit aussi que Cena ne revient que si le chèque est assez grand et que dès qu'il sort du bus, il a sa pelle. Alors en plus, au moment où il dit ça, qui est l'argument répété et répété, en plus il dit shuffle à la place de shovel, donc du coup c'est genre là, c'est la sortie de route totale. Et ensuite, donc du coup, qu'est-ce qu'on avait. Voilà, il le traite de backstabbing shark, hein, requin qui assassine les jeunes talents. Et alors Cena reprend la parole parce qu'il va pas laisser Reigns s'en tirer dignement.
Non, faut l'achever. La bête est à terre.
Et alors que j'ai noté quand même, Roman avait réussi à terminer sa promo à peu près proprement quoi.
C'est une de ses meilleures promos.
Voilà, et il se lance donc. Et dit: attention gamin, parce que t'as réussi à faire une semi-bonne promo, enfin en 5 ans t'as appris à faire une semi-bonne promo, mais maintenant je vais t'expliquer comment ça se passe. Et alors là il lui dit: t'as mis 5 ans à faire une promo à moitié descente, ça je l'ai déjà dit, et maintenant je vais te montrer. Tout le monde croit que j'ai une de ces mythiques pelles pour enterrer les gens, et pourtant ça fait 5 ans que j'ai pas main eventé WrestleMania. J'ai été le match de début de show à SummerSlam, j'ai utilisé l'US Championship pour introduire une nouvelle superstar à WWE, et toi, quand t'as eu l'US Championship, tu l'as pris comme une punition. Et tu sais pourquoi je suis encore là ? Parce que tu sais pas faire ton boulot. On m'a parlé pendant des années de ce nouveau champion incroyable et je le vois aujourd'hui, je l'entends et je me dis que tu devrais avoir honte parce que je fais ça en part-time mieux que tu pourrais jamais le faire en full-time.
Allez.
Dead. Roman Reigns signe le contrat, balance la table, mais là le club arrive. Donc je vais vite fait raconter le match. Donc, il s'appelle les Good Brothers maintenant, il les traite de nerd, tout ça. Pendant le match, Cena maîtrise le club et troll, enfin il se moque un peu de Roman Reigns, tout ça. Et puis Roman Reigns se moque de Cena dès qu'il se prend un coup, tout ça. Et puis ça se finit avec un hot tag donc de Roman Reigns qui spire, je ne sais plus si c'est Gallows ou Anderson, mais à ce moment-là, Cena lui il maîtrise, enfin il fait aussi un finisher, je ne sais plus ce que c'est, sur l'autre. Parlons de cette promo. Alors moi je fais partie, alors je pense que je suis dans une minorité, mais alors tellement infime dans les fans, j'ai du mal avec cette promo.
Elle est pas parfaite, hein. Elle est violente, elle est historique peut-être, mais elle est pas parfaite.
J'ai du mal avec la violence de cette promo. C'est dans ces moments-là qu'on se dit qu'il y a des gens en coulisses qui sont genre des... C'est un peu comme avec Emma finalement. En fait, c'est un peu, mais en pire. Mais c'est un peu comme avec Emma, c'est-à-dire que on sent qu'il y a quelqu'un, ou plutôt plusieurs personnes, mais qui ont décidé à un moment d'appuyer. Genre, on push Roman Reigns. Et à un moment, c'est genre, ah, mais en fait, maintenant, ça nous ferait un angle trop bien si on l'enterrait totalement et si on était d'accord avec les fans. Et là, ils appuient sur le switch. Et je sais pas. Je pense que, bien sûr, c'est prévu. Roman Reigns sait qu'on va, genre, entre guillemets, l'enterrer et le critiquer. C'est aller trop loin pour moi. C'est genre, c'est aller franchement, genre, largement trop loin. Au-dessus, là, Cena, il lui a balancé des trucs qui sont. Et après, on nous fait croire qu'il y a un match et qu'à la fin, ils se regardent et genre Cena, il le respecte et tout, il lui fait le regard genre sérieux, genre ok, t'es badass et tout. Non, 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 c'est trop tard. Non, pour moi, c'est trop tard. Limite, John Cena, le truc, c'est que sa promo est trop violente pour ensuite me dire, pour ensuite que Cena aille me dire la semaine prochaine, ah ouais, Roman Reigns, c'est le match du siècle. Non, c'est pas le match du siècle, tu viens de dire que c'était une sous-merde. Tu viens de dire que c'est... C'est une merde qui mérite pas sa place, qui a été placée par l'entreprise, qui sait pas faire une promo, qui a pas confiance en lui. Roman Reigns pendant la promo de Cena, même s'il était prévenu, franchement, on le sentait limite tétanisé, hein, sur certains moments. Même si après il s'est rattrapé, hein, il s'est énervé, mais c'est pas comme ça. S'il voulait provoquer Reigns pour que Reigns monte son jeu et qu'il s'énerve un petit peu, je pense pas qu'il fallait aller jusque là. Et moi, franchement, Emma, il y a des trucs qui étaient, en fait, c'était très bon parce que c'était choquant, mais c'était trop choquant pour être à la fin. Enfin, à la fin, si on me dit que c'était que j'ai apprécié le truc, non, je l'ai pas apprécié. Au bout d'un moment, je regardais la promo et je faisais genre, il y avait le choc en même temps, le plaisir du choc et en même temps le. Il y a des trucs qui disent que j'ai vraiment pas apprécié sur Reigns.
Ils essayent de refaire une rivalité qui est à peu près l'équivalent de Cena contre le Rock, sauf que Roman Reigns c'est pas le Rock, il a pas la répartie et là il y a Cena qui est quand même. J'ai envie de dire une petite pute, quoi, parce qu'il tacle là où ça fait mal, il tacle au moment. Il avait déjà fait ça la semaine dernière avec le Miz. Miz qui arrive, qui bute sur le Barclays Center et il casse sa promo, alors que le Miz, il tenait un truc là. Hein. Il venait en disant que voilà, il voit à quoi le ressemble le Barclays Center plein et tout, mais il se fait casser direct par Cena. Sans pitié, pareil quand on l'a vu contre Baron Corbin, il s'est foutu de la gueule de Baron Corbin pendant tout le match à SummerSlam. Là, il vient et j'ai pas l'impression qu'il a envie de lâcher le morceau et de servir la soupe à Roman Reigns. J'étais un peu perplexe quand le segment a commencé justement sur le positionnement de Cena qui arrive comme ça, comme un roquet. Et après, donc là, Reigns a commencé à parler. Je me suis dit, d'accord, donc en fait, c'est l'inverse. Ils vont servir la soupe à Reigns pour qu'il détruise Cena. Mais en fait, Cena, il est trop fort. Il a vu une ouverture, il est rentré dedans, il a cassé le genou. J'ai pas l'impression que Cena, il a envie de prendre sa retraite. J'ai pas l'impression qu'il a envie de retourner à SmackDown. J'ai l'impression qu'effectivement, comme il dit, il a envie de refaire le main event de Mania. et qu'il a, il a pas l'intention de laisser sa place tout de suite, et que si Roman Reigns il veut se positionner comme le top babyface de la compagnie et le mec, le leader du vestiaire comme il se revendique, ben va falloir qu'il bosse un peu plus que ce qu'il a sorti sur l'année qui vient, même s'il a fait du très bon boulot. Mais là maintenant il est dans un dans une rivalité où, où il faut que ça trash talk, et ça c'est son point faible, et ben ça va être l'entraînement ultime contre Cena. Alors je suis d'accord avec toi, il a peut-être été un peu loin Cena, mais c'est ce qu'il faut si on veut sortir quelque chose de Roman Reigns. Il faut pas qu'il s'endorme sur ses acquis, il va falloir qu'il se lève le cul. Et là on l'a vu tout de suite, il a été beaucoup plus convaincant dans sa répartie, dans sa façon de positionner ses mots, etc. Moi, j'ai trouvé que c'était peut-être sa meilleure promo, où il n'avait pas l'air d'un poisson mort quand quand il parlait comme ça. C'était beaucoup plus percutant. C'est ce qu'il faut, je pense, pour enfin le faire passer au niveau supérieur, Reigns. Mais
Je pense que
après,
c'est la dernière partie en fait, moi qui me gêne. C'est
ça
vraiment
l'enterre un peu trop, c'est sûr.
c'est le moment où Cena, je pense limite. Après on saura, on sait jamais à quel où commence les thèmes qu'ils avaient sur leur fiche et où commence l'improvisation et tout ça.
Bah, la pro, c'est au moment où
Mais
Roman Reigns a son trou noir. Et là où
ouais.
Cena place son truc. Après, le reste, c'est
Tu
scripté,
sais
mais...
qu'il y en a, il y en a qui pensent que c'est scripté carrément le blanc de Roman Reigns. Mais moi je crois pas. Hein.
Je pense pas.
Je trouve ça un peu trop bizarre à scripter. Puis surtout, c'est vraiment genre. Là tu scriptes justement un enterrement, quoi. Mais donc. Finalement, toute cette promo, c'est. Bon après le public a tellement une haine, enfin commence à avoir une haine déraisonnée de Reigns que à la fin tout le monde crie Cena, Cena et moi à la fin je me dis mais non, enfin le dans la conversation l'enculé c'est John Cena quand même,
C'est
enfin
ça. Bah ouais, mais il faudrait que Reigns, il ait la répartie. Il n'a pas sorti la répartie. Puis
ouais.
après, c'est un peu. Le problème aussi, c'est Anderson et Gallows qui débarquent. On ne sait
Ouais
pas
alors
pourquoi.
ça on sait pas, ouais.
Ça un peu.
Je pense
Tout
qu'ils ont
se
fait
termine en
ça.
queue de poisson.
Je pense qu'ils ont fait ça un peu pour diluer le truc en fait.
Ouais.
Ils ont
Alors, en
fait ça
fait,
pour que ça se
c'est bouclé à
termine
la.
pas avec, pour que ça se termine pas avec Reigns qui a la gueule dépité qui signe. Bon, il balance la table, mais limite en fait, il balance la table. On a l'impression qu'il est genre désespéré quoi. Qu'il en a plus rien à, il en a plus rien à foutre. Il a juste envie d'être dans le vestiaire, qu'on arrête de l'emmerder. Parce que ce qui vient de se prendre, même si c'est prévu, même, etc. Je pense que c'est un peu, c'était un peu, voire très, très dur. Je suis pour moi le fait que qu'il utilise, qu'il casse le quatrième mur ou le troisième mur, je ne sais jamais. Quatrième. Enfin bref, même si d'ailleurs Cena l'a dit et tout ça pendant sa promo, il dit, ouais, je brise le quatrième mur. Mais je suis pour. Mais on peut pas déballer tout quoi. On peut pas genre le martyriser sur genre tout toute sa
Après, la
carrière là.
rivalité est pas finie. Normalement,
Donc
il y
bon.
aura une séquence qui va répondre à ça pour le
Ouais.
remettre un peu d'aplomb,
Mais
Reigns.
qu'est-ce qu'on va trouver sur Cena? Il y a jamais personne qui a trouvé quelque chose de un
Ah
nouvel
bah,
angle
va
contre
falloir
Cena.
qu'ils trouvent quelque chose, hein. C'est le but s'ils veulent se renouveler, hein.
Et non seulement trouver un nouvel angle, mais aussi que Cena accepte. Parce que
Ah, Cena, il accepte tout.
bon,
Mais
mais
sauf des fois que les jambes lui grillent la priorité, il aime bien enterrer. C'est quand même pas faux ce qu'ils disent. Il a enterré des talents. Après, est-ce que c'est des talents qui auraient vraiment fait quelque chose de transcendant? Ça, c'est pas dit, mais en tout cas, non, je pense que c'est quand même un bon yes man, hein, Cena. C'est quand même le bon soldat. Hein. Et sur Anderson et Gallows, c'était normalement Samoa Joe qui devait affronter Cena ce soir. Mais
Ah oui,
Samoa Joe
c'est.
est blessé au genou, alors dans un house show. Donc pour l'instant, il est sur la touche, Joe. Donc du coup, c'est aussi un peu du fait à la va-vite, ça.
Mais du coup, bizarrement, moi, contrairement, donc du coup, j'allais dire, enfin, je le disais au début, je suis vraiment dans la minorité. Cette promo, moi, ça m'a fait un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que j'étais content. D'ailleurs, on rappelle que le match était pas du tout annoncé la semaine dernière. Enfin, pas du tout suggéré ou quoi que ce soit. Si on a vu, on a vu Reigns et Cena dans dans un segment avec bah, justement il y avait Joe, je crois.
Cena a quand même dit qu'il venait là pour affronter Reigns. C'est pour ça qu'il venait à Raw.
Ouais,
Mais
c'est pas
il y a
faux.
Joe qui s'était intercalé dedans et je pense qu'on partait plutôt sur un Joe Cena, mais
Ah, d'accord.
le public en avait rien à foutre parce qu'il y avait une balle de plage hein, qui était là, donc c'était
Ah
plus
oui,
intéressant.
voilà, les ballons.
Donc
La Beach Ball
voilà.
Mania. Donc voilà, et ça m'a donné plus. J'attends vraiment de voir qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite. Parce que là, même en donnant la victoire à Reigns, j'ai du mal à. Ça va être dur de rattraper ce qu'ils ont fait cette semaine-là, qui est. Peut-être que tout ce qu'il a dit est vrai, mais. Et encore, je pense qu'il y a des trucs qui sont pas forcément vrais au niveau de. Genre du fait que. La suggestion que c'est la WWE qui lui a permis d'être là où il est. Peut-être il est arrivé là plus rapidement, mais Reigns quand même, aujourd'hui on le voit dans un pay-per-view, il a sa place en main event. C'est pas un des plus grands main eventers de l'histoire ou même de la décennie, je pense.
Ah, mais il n'a pas encore convaincu une partie du public.
Mais voilà, ouais, et
Donc,
c'est quand même.
il va falloir convaincre cette partie-là.
Ouais, je trouve ça un peu dur. Donc, juste après, on a eu quoi? On a eu Elias Sampson, hein, qui est venu chanter une petite chanson sur Memphis. Hein, bon, comme d'habitude, il crache sur la ville et tout ça. Et là, du coup, il y a Jerry Lawler, qui est le King of Memphis. Enfin, le. Donc, il vient pour annoncer. Enfin, il se lève et il dit, Elias, t'arrives pas trop à connecter avec ton public, tout ça. Moi, je connais quelqu'un qui s'y connaît en show, hein, en musique et tout ça. Et bien, qui c'est qui arrive? C'est Pelvis Wesley! Alors, si vous ne connaissez pas Pelvis Wesley, c'est un des personnages de Southpaw Regional Wrestling. Qu'est-ce que Southpaw Regional Wrestling? Et bah, c'est une mini-série sur la chaîne YouTube WWE qui parodie les fédérations de catch des années. À chaque fois, je me gourre, moi je dis 70 ou un truc comme ça.
Alors, ils
80.
sont dans les années 80, parce
Voilà.
que j'ai regardé le truc il y a pas longtemps là et ils donnent des dates.
Et donc voilà, c'est bien sûr un catcheur habillé en Elvis Presley joué par Heath Slater. Donc il arrive et puis il se prend une branlée hein, par Elias Sampson. Enfin bon, au début il commence à danser. Enfin, c'est le vieux sketch, ça ils le font tellement de fois où il y a quelqu'un qui vient, il y a quelqu'un qui est pas très important qui vient danser à côté du. Généralement c'est d'une star et la star commence à danser et puis au bout d'un moment la star décide de lui mettre un DDT ou un truc. Donc voilà, rien de spécial. On va passer à.
Non, allez regarder Soufpo.
Ouais,
C'est
allez regarder,
bien.
ouais, Southpaw Regional Wrestling, c'est très bien. Si on notera que le public en avait rien à foutre.
Bah, complètement.
Pelvis
Il sait,
Wesley, il connaissait pas.
ouais. Non, bah non, les gens connaissent pas. C'est un truc de YouTube très peu connu. Mais ils s'amusent bien à faire ça, les catcheurs. Donc, on verra peut-être d'autres, des petits crossovers.
Ouais, moi je vais voir, merde, comment il s'appelle le personnage qui est joué par Tyler Breeze?
Ah, je sais pas son nom, mais l'espèce de promoteur.
Ouais, le promoteur
C'était
immobilier
quelque
qui prend
chose, je
la
crois.
qui réussit à hypothéquer la maison de Rousseff et Rousseff et Lana qui jouent des fermiers enfin des campagnards quoi et donc du coup Tyler Breeze qui annonce donc du coup son match contre Rousseff, il fait c'est pas moi qui catchera, il est devant la mer comme ça, c'est ma créature de la mer que j'ai appelée Sea Creature. Et là t'as un mec avec un costume de je sais pas, des monstres marins mais des dégueulasses. C'est génial, regardez-le, c'est en plus c'est très court et ça vous permettra de voir John Cena sous un très bon jour, puisqu'il fait le présentateur et qu'il est très très drôle. Avec
Là aussi, c'est
Fandango.
catamaran.
Avec Fandango qui fait le fils du producteur qu'on a pris en présentateur. Complètement bourré, qui est en train de boire du whisky de temps en temps, qui grogne des trucs. Bref, c'est génial. Banks contre Bliss. C'est le main event de ce soir. Un petit peu genre le main event qui fait. C'est un peu difficile de passer après Reinsina, mais bon. Donc, on a aussi juste avant Sasha Banks en coulisses qui nous apprend qu'elle a désormais les cheveux bouclés. Donc, c'est
Étonnant.
ce que j'ai retenu. Lors de son
Elle a toujours sa
annonce.
patate dans la bouche qui l'empêche de parler
Oh
correctement.
non! Et
Sinon.
aussi, j'ai noté lors de son annonce, parce que les deux superstars se font annoncer par, je sais plus, une annonceuse dans le ring. Sasha Banks a pas vraiment une pop énorme, hein.
Non.
Limite, avec sa Bliss, on a une meilleure. Et donc, Corey Graves va rappeler pendant ce match, hein, qu'il y a pas mal de bad blood entre les deux. Un petit peu, alors j'ai l'impression que la WWE fait ça de plus en plus, enfin énormément en ce moment, de rappeler des choses qui se passent dans la réalité pour les gens qui suivent Twitter, les rumeurs, tout ça. Donc les rumeurs disent que Sasha Banks, Alexa Bliss, dans la réalité, ça se passe pas génial. On va passer au match. Donc Banks domine largement les 5 premières minutes. Elle se la pète tellement qu'on se demande si c'est une heel. Hein. Bliss revient après la pub. Avec quelques coups bas, hein, elle est à l'extérieur du ring, elle commence à prendre un peu le dessus sur Sasha Banks. On a ensuite un duel qui s'accélère, sunset flip de Sasha, grosse mandale d'Alexa Bliss, enchaînée ensuite par, je sais plus comment ça s'appelle, c'est une sorte de flip où elle la tient, c'est un peu comment?
Canadian Destroyer, hein, marteau
Ouais,
pilon
ah
en
voilà, c'est
flip.
ça, ouais, le Canadian Destroyer. Donc elle tente ensuite sa petite combinaison de gymnaste, là, le double knees, mais Banks contre. Ça commence à ressembler à une grosse baston à coups de coups de pied, de coups de poing. Bliss, après un duel sur un des poteaux, réussit son premier superplex de sa carrière à la WWE, je pense. Donc,
Très bon.
Magnifique, magnifique superplex, hein, et puis truc qu'on voit quasiment jamais, hein, chez les filles. Elle laisse Sacha à terre, mais met beaucoup de temps à ramper, hein, parce qu'elle s'est fait, enfin, elle s'est fait mal en kayfabe, mais elle s'est fait mal. Elle rampe pour la couverture, mais à ce moment-là, Sacha la réceptionne dans le bank statement. Alexa Bliss réussit à le transformer en tombée, puis enchaîne avec une sorte de dirty deeds, hein, je dis, parce que ça ressemblait à ça. Et ça fonctionne. 1, 2, 3, victoire d'Alexa Bliss. L'histoire qu'on nous a racontée pendant le show, c'était que Sasha Banks n'arrive jamais à garder son titre à chaque fois qu'elle a une victoire, quoi, contre la championne. Et bah, c'est une nouvelle fois vrai. Sasha Banks a perdu au match qui a suivi sa victoire. Enfin, qui a suivi le moment où elle a eu la ceinture. Bref. Sasha Banks perd donc du coup une nouvelle fois le titre et Nia Jax arrive pour fêter la victoire. Donc on nous rappelle au commentaire un petit peu pour rattraper l'écriture de Raw où Nia Jax une semaine sur deux est pas vraiment l'ami de Alexa Bliss mais si vraiment etc. Là on nous rappelle oh, Nia Jax c'est la super pote, hein, c'est la super pote d'Alexa Bliss, n'oubliez pas. Et là, donc, du coup, elle va voir Alexa Bliss, elle dit, ouais, trop bien. Elle voit Banks qui bouge encore un petit peu dans le coin du ring, elle va lui foutre un petit coup, l'histoire de la mettre à terre. Et puis, Alexa Bliss, enfin, non, Nia Jax, elle prend Alexa Bliss sur son dos. Elle fait, ouais, championne, championne. Tout sourire. Et là, elle regarde face caméra, elle passe du sourire au regard ultra sérieux, et elle balance Alexa Bliss derrière elle. Sam sur le ring et bien sûr et bah, c'est pour rappeler que Nia Jax finalement pendant tous ces mois elle a demandé à chaque fois à Alexa Bliss dis donc moi je veux une opportunité dès que c'est possible je veux une opportunité voilà donc elle va l'avoir son opportunité et finalement Sasha Banks est écartée une nouvelle fois. Qu'en penses-tu, Ringside, déjà du match? Moi, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé ce match. J'ai trouvé
Ouais, match était propre. Ouais,
qualité. Bon,
c'était voilà, pas le
c'était
plus
pas
grand match.
exceptionnel, mais moi, je me suis pas ennuyé. En tout cas, je me suis pas ennuyé dans ce match.
Non, moi non plus. Non, non, c'était plutôt bien exécuté. Voilà, Sasha Banks, elle vend toujours admirablement. C'était plutôt bien monté. On sent qu'il n'y a pas trop d'alchimie entre les deux. Effectivement, le truc qu'elle s'aime pas, on sent que c'est là parce qu'elles y vont pas franco, mais Alexa Bliss, elle a bien monté son niveau. Elle fait plus de botch comme elle en faisait à une époque. C'est quand même beaucoup plus propre. Sasha Banks, c'est Sasha Banks, hein, donc c'est quand même la meilleure catcheuse du monde quasiment.
Non, c'est Charlotte.
Je sais, ouais, hein, moi je préfère Sasha Banks quand même.
Ouais,
Mais
chacun sa chouchou.
je mettrais Sasha Banks, Asuka et Charlotte. C'est pas ça le problème, c'est que qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de faire perdre Sacha Banks une semaine après l'avoir ou 2 semaines après sa victoire à SummerSlam? Ils essayent de l'enterrer complètement ou je sais pas c'est quoi leur but. Je comprends qu'ils mettent le paquet sur Alexa Bliss, mais là ils sont en train de tuer un personnage. Ils ont déjà tué Bayley, ils sont en train de tuer Sacha Banks. C'est pas un gimmick ça, la championne qui arrive pas à conserver ses titres. C'est pas ce qu'on a envie de voir quand on regarde du catch. Tout ça pour faire quoi? Alexa Bliss contre Nia Jax? Parce que c'est vraiment ce qu'on a envie de voir. Est-ce qu'on a envie de voir Nia Jax blesser Alexa Bliss? Quand ils auront blessé Alexa Bliss, ils seront contents, ils n'auront plus personne.
On aura un Nia Jax contre Sacha Banks.
Sacha Banks, voilà, hein, on refera ça jusqu'à ce que Sacha Banks soit blessé, puis après ils lui mettront peut-être Emma. Est-ce que c'est. Alors voilà, on récompense Alexa Bliss, non, Nia Jax de blesser les autres catcheuses. Je suis vraiment perplexe, je trouve que c'est mauvais. Ça aussi, c'est quelque chose d'un petit peu nocif pour la division. J'aime beaucoup Alexa Bliss, mais elle a eu son règne, et ça a fait son temps. Quand on a Sacha Banks dans le roster, c'est des gens sur qui il faut parier. Il faut monter la division sur. J'ai toujours dit qu'il fallait monter la division sur Sacha Banks. Tu la remets au placard comme ça après un règne de 2 semaines,
Après,
c'est
enfin,
triste.
est-ce que
C'est déprimant, moi, je trouve. De,
je sais
c'est
pas si
ce
je
qu'on
confonds mon opinion avec ce que j'entends du public. Est-ce que finalement Sacha Banks, à cause de son incapacité au micro, est-ce qu'elle est pas elle est pas en train de, enfin, elle était pas justement un peu en train de retomber au niveau du public. Enfin, je t'ai dit, il n'y avait pas une pop énorme hein, à l'arrivée de Banks.
Ah oui, bah, ils l'ont tellement plombé, Sacha Banks, depuis un an, qu'au bout d'un moment, le public, effectivement, il lâche un petit peu l'affaire. Hein. Ça, c'est le résultat des bookings de merde. Après, le fait qu'elles ne fassent pas des promos correctement, faut voir aussi ce qu'on leur fait raconter. C'est
Oui, il y a ça aussi.
ce truc de script, on ne sait pas qu'est-ce qu'elles valent vraiment si on leur lâche la bride comme ça. Hein. C'est peut-être plus efficace que ce qu'on peut voir là. Hein. C'est sûr qu'elle est, en plus, elle est dans un personnage face qui lui convient pas vraiment, puisque à la base c'est quand même un heel. Il y a vraiment tout qui joue contre elle. Elle arrive encore à s'en sortir, à sortir des matchs qui sont quasiment toujours très très bons. Et quand on connaît ce que c'est la division féminine à la WWE depuis des décennies, c'est quand même un putain d'exploit. Et comment elle est récompensée avec un règne de 2 semaines
C'est le
et laisse sa
théorème.
place à Alexa Bliss, hein. C'est quand même. Bah, je pose des questions quand je vois ça.
Ils sont un peu schizophréniques, je pense, à la WWE. Là, pour le coup, c'est le théorème. La personnalité prime. Et en ce moment, c'est sûr que je vais pas dire le buzz, mais la plus grosse attraction féminine en ce moment, je pense que ça devient Alexa Bliss parce que les gens aiment ses mimiques, ils aiment bien ses vannes en coulisses. Elle a quand même, je sais pas, enfin, à quel point elle transforme les textes qu'elle sort. Mais par exemple, la petite promo, j'en ai pas parlé, elle était en coulisses. Justement, c'était une promo sur le fait que Sasha Banks perdait sa ceinture à chaque fois. Elle était délivrée, mais parfaitement. Hein. Elle était vraiment excellente. Malgré le fait que finalement la promo est pas géniale, enfin c'est juste dire ce soir une nouvelle fois elle va perdre parce que c'est destiné comme ça et puis la reine retrouvera son trône, blablabla. On l'a entendu 100 fois ça, mais c'était bien fait et Banks à côté qui disait non pas ce soir je vais gagner etc. C'était moins convaincant. Tout ça c'est des mots, c'est pas dans le ring, c'est sûr. Bon, mais le plus chiant, je pense, dans toute cette histoire, enfin bon, pour l'instant Bliss gagne la ceinture, mais je sens qu'ils vont la filer à Nia Jax. Le plus chiant, je pense, dans cette histoire, c'est surtout, et ça j'ai entendu pareil encore dans un autre podcast, c'est que c'est vrai que si on fait le bilan, la ceinture féminine passe de main, mais tout le temps. Genre, tous les 2 mois.
Tête chaude. Ah, elle servait à rien du tout cette victoire-là. Alors, je suis pas contre le fait que ça change assez rapidement de main les ceintures, mais là, franchement, sur ce point-là, sur ce règne-là, c'est complètement inutile.
Après,
Enfin,
est-ce que
néfaste, plus qu'inutile, néfaste, je trouve.
finalement ils font tout ça pour rebasculer sur un retour de Bayley pour battre Nia Jax? Parce que finalement, ça sera enfin ils réutiliseront la recette d'NXT. Qui avait vraiment bien marché à l'époque. Moi, j'avais beaucoup aimé hein, le dernier match entre Bailey et Ajax.
Ouais.
Donc, on sait pas, mais en tout cas, on sent qu'ils font pas confiance en général. En fait, j'ai l'impression qu'ils font pas confiance aux filles. Ils font pas con, ils
Non.
font, ils donnent la ceinture à quelqu'un et ils lui font pas vraiment confiance. Alors qu'il y a du potentiel, et ce qui est un peu le contraire de SmackDown qui avait filé la ceinture à Naomi pendant 300 ans et que ça a rien donné, et ils l'ont continué à. Enfin, son règne a duré, je pense, trop longtemps, moi.
Et puis voilà l'utilisation de Charlotte à SmackDown.
Ouais, voilà, et puis voilà, maintenant
Merci.
avec Ric Flair, du coup, elle a été absente pendant. Enfin, le problème
Ouais,
de
enfin,
santé d'Ric
Ric Flair,
Flair.
ça fait une semaine qu'il est malade ou deux, à tout casser.
Oui.
Hein. Elle a été quand même mise au placard depuis quelques mois. Hein.
Bah,
Je me
je
pose
sais
des
pas s'il y
questions.
avait
Hein.
pas une autre ouais, je sais pas, s'il y avait une autre raison mais donc voilà.
Voilà. Un rôle étrange.
Un rôle étrange. On va passer au top, au flop et à la note comme d'habitude. Je te laisse ringside commencer.
Alors, mon top, je vais le mettre à Neville parce que j'ai oublié de mentionner que sa promo de cette semaine, quand il fait Ever and Ever and Ever, c'était comment dire, en écho à une promo légendaire de Terry Funk lors de sa première retraite, je crois, sachant que Terry Funk a fait légende hein, du catch hardcore. Ça fait 20 ans qu'il prend sa retraite hein, à peu près tous les 5 ans. C'est devenu son fonds de commerce, prendre sa retraite. Donc voilà, c'était sympa d'avoir cette promo un peu spéciale pour les marques, petit clin d'œil, pour les smart, pardon, je me mélange. Le flop, il va aller à la défaite de Sasha Banks, qui est pour moi, je sais pas, une hérésie. Et puis la note, je vais mettre un 3 parce que c'est quand même cette promo de Cena et Reigns, c'était quand même quelque chose de pas banal. Et ça, par contre, ça fait avancer les choses. C'est un grand coup de pied dans la fourmilière. Un instant qui va rester quand on va faire le bilan de l'année. Donc voilà, on va quand même mettre 3.
Ok. Le truc que j'ai pas dit sur Cena, en fait, c'est que je trouvais aussi assez hypocrite que le gars il parle du fait que la compagnie, enfin que du coup la WWE fasse tout ça pour lui, etc. Enfin que le protège, etc. Alors que finalement, ouais, c'est il a eu le même le même traitement. Bon après, c'est sûr que le résultat est pas le même. Mais bref, mon top. Qu'est-ce que c'est mon top? Bah
Qu'est-ce que
c'est
c'est mon top?
mon top, c'est la doublette Rollins Ambrose, enfin non, du coup Rollins Cesaro et Sheamus Ambrose, deux très bons matchs à la suite, une histoire qui est de finalement presque cette semaine, ça m'a rendu encore plus intéressant. Donc voilà, j'adore ce qu'ils font tous. Bon, je les ai, enfin, je les aime tous. Un peu moins Ambrose, mais bon, voilà, ça fait partie de mes catcheurs préférés. Donc, bravo les gars, continuez. J'espère qu'ils vont trouver d'autres idées pour vous tenir parce qu'il y a 4 semaines hein, avant prochain pay-per-view.
4 semaines. S'ils arrivent plus à faire des histoires qui tiennent quatre
Ouais,
semaines, c'est
tu
qu'on
me
est mal
diras
barré hein, quand même.
SmackDown, ils ont 6 semaines, hein, je crois. Donc, et du coup, mon flop. Je vais pas le mettre à Cena, mais mon flop, c'est Emma. Mon flop, arrêtez. Soit vous la laissez chez elle.
Elle est pas venue là pour souffrir, quoi.
Non mais vraiment, soit vous la laissez chez elle parce que vous l'aimez pas, etc. Et vous attendez la fin de son contrat, ou vous l'amenez et vous la mettez, même si c'est mal écrit, etc. Mais juste mettez-la dans un match, etc. Qu'elle gagne de temps en temps, peut-être en tag team, peut-être avec une filouterie ou un truc comme ça. Un truc pas important, qu'elle touche pas le titre, d'accord, ok. Faites pas ça. Faites pas genre la meuf qui est fan de Twitter, qui se fait. Qui a gagné, mais elle est tellement vide de son personnage, maintenant c'est du vide intégral. C'est digne d'un gimmick. Même de l'époque où elle était avec Santino Marella, même c'était moins pire. Donc du coup, c'est pénible. Vous avez quelqu'un qui est meilleur dans le ring que Nia Jax. Donc voilà, et elle a un personnage et elle sait parler au micro. Emma est bonne au micro, quoi. Donc je sais pas si vous lui en voulez pour je sais pas quoi, mais bordel, elle a à peu près tout ce qu'il faut pour être dans le cercle avec Bliss et compagnie. Donc au bout d'un moment, ça m'énerve. Ouh, je boue. Je vais mettre un quand même grâce au match tag team. La promo, enfin, une partie de ce segment avec Reigns, Cena, qui était quand même au moins choquant. Et puis, moi, j'ai bien aimé quand même le Alexa Bliss Banks. Donc voilà, 3, ouais. Pareil, c'était un bon Raw avec des choses énervantes. Avec deux choses qui m'ont énervé
C'est vrai,
vraiment.
il y avait des trucs très très énervants et des toutes choses qui étaient bien réussies. Donc c'est. Ouais, on est dans
Ils
le
sont très,
3.
j'ai l'impression qu'ils sont très provocateurs en ce moment. La WWE, ils veulent
Ah bah, il
vraiment,
faut.
genre.
C'est ça. Ils veulent
Mais
nous.
bon.
Ils veulent
Tout
des
ça pour
réactions. Ils veulent
qu'on
que
regarde la
ça.
semaine prochaine, hein,
C'est
bien
ça.
entendu.
Aïe.
C'est toujours le but. On vous dit donc du coup, j'allais dire, on vous souhaite une bonne semaine, mais d'abord je vais faire la petite auto-promo. Vous nous retrouvez sur iTunes, vous nous retrouvez sur PodCloud, vous nous retrouvez bien entendu sur YouTube, hein, si vous nous voyez. Dès à présent.
Coucou,
Coucou.
on est sur YouTube.
Et on susurre des mots aux auditeurs. Je vais remercier Ringside d'être venu.
Ah, merci à toi d'avoir présenté. Toujours un plaisir de venir.
Merci, merci. Et on vous souhaite donc du coup une très bonne semaine pleine de catch. N'oubliez pas, le Talking Catch arrive très bientôt, hein. Il y en a un par mois.
Abonnez-vous si vous le voulez rapidement.
Et oui, abonnez-vous parce que peut-être qu'il arrivera le samedi, peut-être le dimanche, peut-être
On
le
sait
lundi,
pas.
le mardi, qui sait, mais ça va être début septembre. On vous fait des gros bisous. Salut!
Ciao, ciao.